Ce soir, je vais partager avec vous quelque chose de plus archéologique et plus spirituel. Parce qu'en étudiant l'histoire de ces mouvements, j'ai découvert quelque chose d'intéressant sur le plan de la compréhension de la relation avec Dieu. Et vous allez voir quelque chose d'intéressant sur le sujet la vie et la mort et l'au-delà. Avant, je vais faire un résumé des documents qu'on a trouvés aux ces grottes. Alors, d'abord, des textes bibliques, 244. Aujourd'hui, je suis allé voir dans d'autres sites et c'est toujours ces numéros-là, 244. Et encore presque 600 manuscrits non bibliques. Comme je vous ai fait voir la première soirée, il y avait des commentaires bibliques. Ça, c'est un commentaire sur le livre du prophète Osée. Des documents religieux, par exemple, il faisait des analyses sur d'autres religions aussi, sur la religion des Égyptiens et Égyptiens. Des cantiques, oh, combien de cantiques ils ont composés. Et c'est très intéressant parce qu'ils ont composé plus de 100 psaumes, plus que les 150 que nous avons. Et dans lesquels il y a beaucoup de mentions sur le Messie qui devait venir. Des écrits normatifs, éthiques. Ce n'étaient pas les règles de la communauté, c'était des expressions éthiques. Des documents politiques, des lettres qu'ils ont écrites, et c'est intéressant que parmi les lettres qu'ils ont écrites, il y a une lettre à un qui s'est. C'est défini un Messie, Bar Kokheba. Des documents techniques, des œuvres littéraires, des documents juridiques, et ces documents juridiques étaient les règles de la communauté. Les documents de Damas, la règle de la guerre, la règle, différentes règles, la règle de la pureté, etc. Ici, j'ai un peu le résumé de ce qu'on a trouvé dans les 11 grottes qui sont dans la région des Qumran. Vous voyez, la quatrième, la première sont les grottes qui ont eu plus de matériel. La 9 et la 10, les moins. Et après, la 25, c'est la grotte qui avait les matériels mieux conservés. C'était presque les mieux conservés. La 11, la dernière. 25, j'ai dit la grotte 25. Ouf, je suis un peu fatigué. Il y avait des grottes qui n'avaient pas de documents bibliques, comme vous voyez la 9 et la 10, ou d'autres, la 7, la 3, qu'il y avait vraiment peu de choses, la 7, vraiment peu de choses. Mais aussi pas tellement d'autres choses. La grotte 4, celle qu'on voit dans la première diapositive, c'était la grotte qu'on a trouvé la plupart du matériel. Et ici, c'est le résumé de ce qu'on a trouvé comme rouleau sur les livres de la Bible. Alors, encore cela, c'est en italien, mais Genèse, Exode, c'est pas tellement différent. Hein? Les numéros, c'est toujours les mêmes. Je souligne pour le livre de l'Exode et pour le livre du prophète Daniel, il y avait aussi pas complet, mais des rouleaux en grec. Un rouleau en grec pour le livre de l'Exode et un rouleau en grec pour le livre du prophète Daniel. Une bonne partie des documents étaient, vous voyez là en bas, Florilegio. C'était une série de documents qu'ils avaient, qu'ils amenaient toujours avec eux. C'était des petits rouleaux qu'ils les mettaient dans les poches, qu'ils les mettaient toujours avec eux. En tout, 244 documents bibliques, textes bibliques. Non, maintenant, la vie, la mort et l'au-delà. Il faut étudier attentivement cela parce que ça nous donne quelque chose pour nous-mêmes. Je crois que nous avons une compréhension de l'état de mort de l'âme qui est la compréhension véritable. Le juste, selon ce qui dit la Bible. Je viens de recevoir un WhatsApp d'un ami qui m'envoie une confession d'un prêtre. Et c'est un prêtre pas tellement jeune, où il dit, faites attention, parce que je viens de découvrir que l'enseignement biblique de l'Église catholique, c'est complètement erroné, complètement faux. C'est un prêtre qui l'a dit. C'est un Italien, si tu veux, je peux te l'envoyer. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à découvrir là? Tout d'abord, leur compréhension sur la nature humaine était en quelques mots une réaction à la philosophie grecque. Depuis Ptolémée jusqu'à à Hérode, tous ceux qui ont eu la domination sur cette région-là ont essayé d'imposer, d'introduire, de vouloir faire entrer la pensée philosophique qui était pensée sur l'homme, pensée sur l'au-delà, pensée sur la nature humaine, sur la destinée de l'homme, qui venait de la philosophie pythagorique grecque. Et eux, ils ont réagi, surtout ils ont réagi à ces dominateurs, cette domination qui n'était pas une domination, ce n'était pas un gouvernement juif, c'était un gouvernement païen, même s'il y avait une certaine autonomie juive. Et ces dominations-là voulaient introduire à tout prix la philosophie grecque. Se défendre de cette philosophie, se battre sur les thèmes de la vie humaine. Ça, c'était un sujet très important. Comment les Juifs ont réagi à cela? Alors, les Zélotes et les pharisiens ont réagi d'une façon. Les Zélotes, ils voulaient réagir à travers la révolte militaire. Pas militaire, mais comme révolte avec des attentats. Les pharisiens ont réagi à travers une mise en... avec la création de beaucoup de règles. Les Maccabéens ont voulu se battre militairement pour éliminer physiquement les ennemis. Leur tentative, c'était celui de vouloir éliminer les Séléucides, qui étaient une dynastie qui a dominé pendant plus ou moins 150 années en Palestine. Les Esséniens de Qumran s'étaient opposés à ces dominations en voulant se fonder toujours plus sur la Bible. Les pharisiens avaient mis sur place la tradition. Vous vous rappelez dans les évangiles, Jésus dit « avec votre tradition ». Les Esséniens n'avaient pas une tradition comme les pharisiens. Les Esséniens étaient un mouvement très, très lié à la Bible. Ils avaient leur interprétation. Il y a plusieurs choses qu'on ne peut pas accepter. Mais ils étaient les mouvements qui étaient très ancrés dans la parole de Dieu. Donc, sur la destinée humaine. Maintenant, je vais vous citer deux déclarations qui semblent contraires l'un à l'autre. Des déclarations d'historiens. La première, c'est de Flavius Joseph. Il affirme que les Esséniens avaient une conception de l'existence humaine pythagoricienne, de l'immortalité de l'âme restant continuellement vivante après la mort du corps. C'est l'évaluation qui a fait de ces mouvements Flavius Joseph. Alors, il y a des choses vraies dans cette affirmation. L'autre, c'était d'un chrétien, Hippolyte de Rome, qui affirme qu'il croyait en un jugement final, à la punition des mauvais, de la mauvaise vie, et à la résurrection finale et à la vie éternelle dans les royaumes que Dieu devait amener pour ses enfants, les enfants de la lumière. Les Esséniens définissaient « fils de la lumière ». C'était une des façons qu'ils se présenter aux autres. Quel des deux est correct? Qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que, vous voyez, ce sont deux lectures d'une réalité complètement opposée l'une à l'autre. Hippolyte, qui est venu après Flavius Joseph, avait les deux une lecture de la réalité de ces mouvements, l'une le contraire de l'autre. Pourquoi? Maintenant, je vais vous faire voir une citation d'un Allemand, professeur de Tübingen, qui l'a étudié, il a publié un livre sur les Esséniens, un livre sur le culte et la religion des Esséniens. Qu'est-ce qu'il dit? Les Esséniens étaient les seuls éclairés qui se sont opposés à la philosophie grecque. S'opposer à la philosophie grecque signifie s'opposer à la vision de la vie et de la mort, à la vision de l'homme, à la vision surtout de cela, parce que la philosophie grecque n'était pas tellement religion, c'était juste la philosophie. Et ça, c'est écrit à claires lettres dans ce livre de Martin Hengel. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ces deux opinions, celle de Flavius et celle d'Hippolyte, si contraires? L'histoire, c'est la suivante. Ils ont commencé avec une forte opposition. Et pendant presque un siècle et demi, presque deux siècles, ils ont résisté à la philosophie grecque. Et même parmi les Juifs, il y avait en général une position très nette contre la pensée philosophique, qui était une pensée existentielle. Même le peuple d'Israël, en général, il a été opposé à cette philosophie. Mais, quand c'est arrivé qu'un juif, Philon d'Alexandrie, était un philosophe juif qu'il a totalement embrassé, il est devenu professeur à Alexandrie de philosophie grecque. Mais lui, il a mêlé la philosophie grecque, il a essayé de la mettre ensemble aux pensées, à la pensée biblique. Et avec Philon, la philosophie grecque est entrée dans le monde juif. Et même les Esséniens se sont convaincus de ça. Et c'est étrange, parce que c'est passé du noir au blanc, au contraire. Quand c'est arrivé cela? C'est arrivé environ vers les 15-20 de notre ère, après Jésus-Christ. Ils ont accepté cette pensée. Et la chose qui m'a frappé, qui m'a touché, c'est qu'acceptant la philosophie grecque, ils ont cessé d'attendre la venue du Messie. Il y a une logique là. Nous attendons la venue du Christ. Nous attendons cette venue, parce qu'avec la venue du Christ, il y aura la résurrection et la vie éternelle. Avant la venue du Christ, il n'y aura rien pour ceux qui meurent. C'est ce que nous comprenons de la parole de Dieu. Mais les chrétiens, d'autres, les catholiques et les orthodoxes, dans leur credo, il doit venir à juger les vivants et les morts. Mais en réalité, est-ce qu'ils ont la nécessité que le Seigneur revienne? Moi, j'ai participé, je pense que vous avez fait la même chose, à plusieurs funérailles, enterrements catholiques. Et peut-être tu as participé aux orthodoxes. Ou ici, en Belgique, tu as participé aux catholiques. Je ne sais pas si vous avez participé juste pour être solidaire aux amis qui ont perdu des parents, ils ont perdu quelqu'un. Je me rappelle très bien, quand j'habitais à Rome, il y avait une dame qui habitait à l'état supérieur au nôtre, qui, dans l'espace d'une année, a perdu le fils unique qu'elle avait et après son mari. Elle était toute seule. On est allé à visiter avec ma femme son mari quand il était malade. Il était aussi ancien. Et dès qu'elle est restée toute seule, elle était presque tous les jours chez nous. On était devenus vraiment même famille. Elle mangeait souvent chez nous. Elle a essayé aussi de nous inviter à manger chez elle, mais elle avait une maison très petite et nous, on avait deux enfants. En quatre, aller manger, c'était un peu... Elle mangeait chez nous. Elle aussi, elle est morte. Et on est allé aux funérailles. Ma femme, elle était très liée. Elle l'aidait pour beaucoup de choses. Elle avait les habits, elle l'aidait à maintenir la maison propre. Elle n'était même pas tellement économiquement riche. Elle avait besoin. Elle venait manger chez nous et on le faisait aussi pour l'aider. Quand on était aux funérailles, dans l'espace de 12-13 minutes que le prêtre a fait, on dit en termes catholiques, l'homélie, la prédication, la première chose qu'il a dit, nous devons prier pour l'âme de Virginia, parce que maintenant elle doit faire un processus de purification de le purgatoire. Donc Virginia n'était pas ni à l'enfer ni au purgatoire. Il a terminé le prêtre en disant, Virginia maintenant prie pour nous, toi que tu es tout près de Dieu. Si Virginia était tout près de Dieu, n'avait pas besoin de la résurrection, n'avait pas besoin de la seconde, du retour du Christ, elle était déjà là. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup aujourd'hui qui croient qu'à la mort, sont déjà sauvés, même s'ils ne sont pas catholiques. Après Rome, je suis retourné à Catania, au sang sicilien, aux périodes qu'il y avait aussi Carlos en Sicile. Et un jour, j'étais à visiter un frère à l'hôpital. Quand je suis sorti, j'ai dû traverser une route importante via le Mario Rapisardi, je ne sais pas si c'était dit quelque chose. C'était une route toute droite qui coupait la ville en deux. Il y en avait un d'un sens et l'autre qui s'est croisé. Et j'avais le feu et j'attendais. De l'autre côté de la route, qui c'était comme d'ici à Claude, il y avait une édicola. C'était un magasin sur la route, c'était pas dedans, et il y avait beaucoup de journaux en vue. Et j'ai regardé qu'il y avait quelque chose qui parlait des anges. Et il y avait le feu, j'ai eu le temps de lire quelque chose. Dès qu'est arrivé le verre, je suis allé à lire. Qu'est-ce que c'était ces anges? C'était les bébés morts qui étaient devenus des anges. Et j'ai suivi attentivement quand il y avait un jeune ou un bébé qui mourait, maintenant il est un ange. Cette conviction, c'est celle qui avait aussi pris place dans la conviction des Esséniens. Et avec cette conviction, ils n'ont plus attendu la venue du Messie. Et les dernières années, depuis les vents jusqu'au 64, même leur production est diminuée beaucoup. Copier la Bible, ce n'était pas la priorité qu'ils avaient eue pendant presque deux siècles. Mais avant, quelle était leur position à cause de cette situation philosophique? Ils ont perdu ce qu'ils avaient compris avant. Il y a eu un changement de compréhension biblique de la vie et de la mort. Mais allons maintenant voir comment ils avaient cru avant. Quelle était leur conviction sur l'existence humaine? Je crois que comme adventistes, nous avons quelque chose à apprendre de ce qu'ils croyaient. Normalement, quand on donnait les études bibliques sur l'état des morts, quelle était l'intention que nous avions dans un ambiance catholique comme le nôtre, France, Belgique, Espagne, je ne sais pas si c'était la même chose en Roumanie, c'était démontrer que les morts dorment. qu'on ne peut pas avoir une relation avec eux, que le spiritualisme n'existe pas, que c'est œuvre de démons. C'était pas ça? Peut-être que même avec notre frère qui vient du Togo, un point qui a signé beaucoup les changements, c'était dès la croyance dans l'immortalité de l'âme à une croyance complètement contraire. Mais en réalité, si nous nous limitons à cela, nous annonçons vérité à moitié. Laissez-moi dire pourquoi. Le point central de leur conviction pendant presque 2 siècles, c'était que tout vient de Dieu. La vie, nous vivons grâce à Dieu. Chaque bénédiction vient de Dieu. Nous le disons. Mais pour eux, c'était une conviction radicale. Dans un manuscrit, les 4 coups 548, le Dieu très haut est appelé celui qui donne la vie. Un autre manuscrit qui était dans le rule of the community, de Dieu est la connaissance, tout ce qui est et tout ce qu'il sera. Il a créé l'homme pour gouverner le monde. De Dieu est tout, tout ce qui est et tout ce qu'il sera. Une autre déclaration encore. Qui est comme toi, ô Dieu d'Israël? C'est lui qui crée, établissant les temps de sainteté, les temps des années et les jours d'éternité. Dieu est le maître du temps. Dieu est le maître du vivre dans les temps. Autre déclaration très importante. Ici, c'est un commentaire et après, je vais lire avec vous. Une déclaration. Dieu est le très haut, le tout puissant qui donne la vie. Son Messie apportera la connaissance de la révélation de ce Dieu qui génère la vie. Je vous raconte une expérience que j'ai faite un jour que j'étais à Londres avec ma femme. On était à Londres pour apprendre l'anglais. On est resté seulement un mois, seulement qu'on parlait toujours avec ma femme en italien. Seulement les 3 heures qu'on était là pour à l'école, on devait écouter l'anglais. Je n'ai pas bien profité. Mais les dimanches, il n'y avait pas d'école. On allait visiter Londres et on est allé dans les temples, les tabernacles des Mormons à Londres. Il y a un tabernacle à Londres qui est immense. Le plus grand du monde, c'est à Salt Lake City. Le deuxième, c'est tout près de notre conférence générale à Washington. Il est immense. C'est quelque chose d'unique, très beau. Même tout autour, c'est presque l'Éden, comme il était nous. Alors, on entre dans cet immense temple. Main à la main. Il y avait une hall qui était large comme cette église, beaucoup plus longue d'un côté et de l'autre. Et on va avec ma femme dans la direction d'entrer dans le temple. Mais c'était interdit. C'est interdit pour quelqu'un qui n'est pas mormon d'entrer dans le temple. Et comme on est en train de pousser la porte, c'était déjà commencé le service, quelqu'un, non. Venez avec moi, on vous amène d'un autre côté. Et ils nous ont amenés dans une chambre qui était la moitié de celle-ci. Il y avait quelques autres personnes. Ils nous ont fait voir en vidéo avec leur sens de la vie, leur explication sur la vie. Je ne sais pas si vous avez jamais étudié avec des mormons. Tu les as connus? Beaucoup, tu dis. Où tu les as connus, à Genève, en Suisse? Okay. Alors, on s'est assis, ils nous ont fait voir ces vidéos qui c'était environ 25 minutes. Alors, ils faisaient voir une jeune couple mariée qui avait la femme était restée enceinte. Et les moments, ils font comprendre qu'il y a les moments qui restent enceintes. Et on voit qu'il y a un esprit qui du ciel descend et s'installe dans le sein de la mère, dans le fœtus. Le bébé est né, il devient jeune, il se marie, et les parents, entre-temps, meurent. Et ils vont au ciel, ils retournent. Et on voit au moment de la mort que cet esprit qui descend du ciel retourne au ciel. L'enfant grandit, devient âgé, et il est sur le point de mourir. Ils sont là-haut, ils font voir qu'ils sont là-haut, qu'ils regardent leur fils qui est en train de mourir. Et au moment qu'il meurt, ils ne font pas comme on fait maintenant avec les sacs. Ils s'embrassent, ils sont très contents. Et ils regardent. Ils regardent et voilà que l'esprit du fils, qui a les ambiances bien évidentes, il vient et il l'embrasse. Et le cycle continue. Après, la vidéo finit et on sort. Et je ne sais pas si c'était un diacre, un ancien, quelqu'un. Vous avez goûté ces vidéos, qu'est-ce qui vous semblait? C'est bon, n'est-ce pas? Et moi, j'ai répondu d'une façon très, très, très sec. Parce que tout s'était construit sur l'immortalité de l'âme. J'ai répondu, je ne crois pas que ma vie, c'est dans mon âme. Je crois que ma vie, c'est en Jésus. Et il reste. Les Esséniens ne croyaient pas dans l'âme, ils croyaient, parce que l'âme pour les Grecs c'est une sorte de culte, c'est un animisme. Ils croyaient que la vie c'est un Yahvé. Et j'ai ici une citation d'un archéologue qui a étudié la philosophie, la théologie des Esséniens, William Albright, qu'il dit que le tétragramme Yahvé, vous le voyez là, doit être interprété comme celui qui donne l'existence. Et pour les Esséniens, du Dieu de la connaissance vient tout ce qui est et qui sera. Dans leur commentaire, ici c'est un commentaire qu'ils ont écrit, regardez combien de fois c'est cerclé, il y a le nom Yahvé. Pour eux, tout c'était Yahvé. Yahvé c'était la vie. Yahvé c'était le créateur. Yahvé c'est celui qui sauve Israël. Yahvé c'est celui qui envoie le Messie. Yahvé c'était pas le Messie, c'est celui qui va envoyer le Messie. La vie c'est en Yahvé. Et en effet, pour ceux qui ont étudié l'hébreu, Yahvé c'est un verbe, c'est pas un nom. Comment Roger, ce n'est pas un verbe, c'est un nom. Paul, ce n'est pas un verbe, c'est un nom. Yahvé, c'est un verbe. Signifie, c'est la forme hébraïque au piel. Il y a quelqu'un qui dit que c'est un ifil. Frère Schwantes, qui était à Colonge, disait que c'était ifil. Frère Vinandi disait que c'était piel. C'est un verbe qui signifie, c'est le verbe être, Yahvé. Dans cette forme, signifie, c'est lui qui fait être. Donc l'être vient de Dieu. Et pour les Esséniens, la vie, ce n'était pas dans l'âme, c'était Dieu qui était la vie. Alors maintenant, j'ai une série de déclarations très intéressantes. Le Messie serait le donneur de la vie et l'auteur de la résurrection. Et Gary Kromaski, qu'on a parlé de lui, conclut: beaucoup de manuscrits qu'ils ont écrits sur Daniel et sur la première d'Enoch, trouvés dans la grotte 4, nous amènent à conclure que les Esséniens croyaient à la résurrection, qui est un acte créateur de Dieu. Le mot résurrection, dans la langue grecque, mais aussi dans la langue hébraïque, signifie, c'est pas se réveiller. En grec, il y a deux mots. Il y a les mots anastasis et les mots egeiro. Egeiro signifie réveil. C'est pour cela que on a l'idée d'état de mort qui est un état de sommeil. Le mot anastasis signifie nouvelle création. Le Dieu créateur, c'est celui qui a commencé tout au commencement, qui a créé l'univers, les êtres vivants, et c'est celui qui a créé l'homme. Et dans l'Ancien Testament, même dans l'Ancien Testament, déjà dans l'Ancien Testament, quand on parle de résurrection, c'est un verbe qui signifie récréation. Et les Esséniens croyaient à cela. Alors, on continue avec quelques autres citations. Alors là, vous voyez, il y a des trous, on n'arrive pas à comprendre bien. Dieu jugera les défauts révélés. Et après, il y a une pause. Ne surpris pas les humbles en les tuant avec la crucifixion. Et avec les clous, vous ne devez pas les toucher. Après, dans une autre citation, toujours dans la même grotte, ils ont mis à mort les princes du peuple, les germes de David, avec des clous, des prêtres feront cela. Alors il ressuscitera un nom de joie pour votre père, il y aura pour vous, pour vos frères, une base solide. Après la résurrection des Messie, il y aurait eu la résurrection de ceux qui ont accepté Yahvé. Le Seigneur de la terre et de tout ce qui est en elle, des mers et de tous les domaines de l'eau et des cours d'eau, il a béni et non maudit. Celui qui donne la vie va ressusciter les morts de mon peuple. Il rendra grâce et il nous annoncera des actes justes du Seigneur. Car le Seigneur tiendra compte pour les pieux, il appellera les justes par leur nom. Sur les justes, l'Esprit sera la couverture. Et pour les fidèles, une puissance renouvelée. Il va guérir la souffrance, il va redonner vie aux mortes, il envoie de bonnes nouvelles aux malheureux. Voilà la compréhension existentielle des Esséniens. Et c'est très intéressant, et nous avons de forts liens avec cette compréhension. Pour eux, tout venait grâce à la nature de Dieu, et à l'action du Messie. Et c'est quelque chose qui, je crois, nous donne à apprendre beaucoup de choses à nous-mêmes. Et je vais terminer avec cette commentaire, qui c'est un peu la synthèse d'un livre qui a écrit Van der Kamp. Les facteurs fondamentaux de la foi des Esséniens étaient les Messies ressuscités. Ils croyaient à la résurrection. Et aujourd'hui, dans un temps comme le nôtre, où entre réincarnation et immortalité de l'âme qui va à meilleure vie après la mort, le message de la résurrection reste le grand message pour l'homme d'aujourd'hui qui vient de la part de Dieu. Et pour ce message-là, nous avons quelque chose dont le monde a besoin. Parce que pour ce message-là, il n'y a pas quelque chose qui vient de l'homme. La résurrection nous appelle à quelqu'un en dehors de nous qui va la réaliser. La résurrection nous amène à annoncer Dieu et son pouvoir. Et aujourd'hui, les gens, toujours plus, n'ont pas envie d'une religion, mais ils ont besoin de Dieu. Et le Dieu que nous avons connu, le Dieu qui s'est révélé dans sa parole, qui s'est manifesté avec le Christ, c'est le Dieu dont les gens ont besoin. Et il y a toujours plus de personnes qui cherchent à connaître ce Dieu. Et c'est notre message, et c'était le message qui nous ont témoigné les Esséniens de Qumran. Ça, c'est un message que j'ai appris fort de leur conviction et de leur foi, de leur croyance. Et c'est un message aussi pour nous. Ah non, il y a une chose que... Il y a une autre diapo. Alors, ouf. C'est la conclusion générale. La première soirée, nous avons vu les contenus de cette découverte. la deuxième soirée, nous avons parlé des contributions archéologiques de cette découverte. La troisième soirée, nous avons vu comme cette découverte nous amène à conclure que le livre de Daniel et, pour extension, toute la Bible que nous avons à travers cette découverte, c'est beaucoup plus ancien, même de la date de ces scribes. Ils ont copié des documents beaucoup plus anciens. Après, on a étudié la vision historique, la vision de l'histoire. Hier soir, on a étudié un peu le messianisme, et ce soir, au cœur de leur compréhension existentielle, la foi dans la résurrection à travers, amenée par les Messies. C'est la synthèse de cette 6 soirées que nous avons passées ensemble, pour laquelle je vous remercie, parce que vous avez été constant presque tous les soirs.